Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net. Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur www.prune.net partout sur la planète. Alors ce soir, Money Time, saison 5, épisode 7, on vous raconte tout ce qui s'est passé cette semaine sur la planète sport avec notre équipe de chroniqueurs et on va commencer par la gauche avec toi mon Fab, comment tu vas bien ?
Ça va bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Et à côté de toi, c'est Charles. Salut Charles.
Salut Matt, salut à tous, salut à tous.
On continue les présentations. À côté de moi, c'est Jean-Marc. Ça va mon pote ?
Ça va, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et j'en profite pour féliciter Jordan Tiret, vainqueur du semi-marathon de Nantes en 1h10 minutes 23 secondes, ainsi que les 3800 participants.
Facile.
Bravo à lui, on félicite aussi Jérém qui rejoint officiellement la team Money Time. Bienvenue mon pote.
Merci bien et bonsoir à tous.
Bienvenue.
En cabine, Maëlan. Salut Maëlan.
Salut.
Et pour le sommaire de cette émission, on traîne pas, on démarre avec les qualifs de la Coupe du Monde 2022 Zone Europe, celle qui nous intéresse. Dans la foulée, la page handball. Puis, on ira sur les circuits, c'est Nitro avec MotoGP et Formule 1. Dans le reste de l'actu, une grande page rugby, c'était la tournée d'automne. Voilà Maëlan, on y va, c'est le Prune Football Club.
Money Time. Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on parle donc football, on parle élimination Coupe du Monde 2022 et les supporters des Bleus peuvent le
qualification.
Chanter. Le Qatar, je le vois.
J'aurais préféré qualification Mathieu. Éliminatoire, mais j'aurais préféré qualification d'abord.
Qualification des Bleus, donc avant même le déplacement mardi en Finlande avec, en guise de faire valoir pour cet avant-dernier match, le Kazakhstan, Charles, qui a pris une véritable fessée.
Oui, de toute façon, alors on pouvait s'y attendre d'une certaine façon, ce n'est que le Kazakhstan, ils sont derniers du groupe, 125e nation au classement 125e. FIFA. Ils sont assez loin. L'équipe de France a réalisé quand même un très bon match. Ils se sont pas relâchés. Ils ont fait un match sérieux, ce qu'on attendait d'eux. Ce qu'on voulait voir aussi, c'est une équipe un peu plus faible, c'est-à-dire produire du jeu, des combinaisons. Et ça a bien marché. Donc on est qualifié dans un groupe où on était légitimement les favoris et sans contestation. Donc c'est une bonne qualification. En plus d'un bon match, faudra confirmer en Finlande mardi.
Ouais, moi je retiens, au-delà des 4 buts de Mbappé, qui ont été quand même relativement faciles, faut dire, il aurait pu marquer 5, hein, il aurait pu en mettre 5, il ne voulait pas, il aurait pu égaliser.
Mais voilà. Il fait une belle passe pour
Benzema. Maintenant, on est contre, comme tu disais Charles, le Kazakhstan, qui jouait 125e mondial. Bon, voilà, c'était pas non plus la pire des équipes, on aurait pu en mettre plus. Après, je ne comprends pas trop les notes. 10 sur l'équipe, ok, match parfait.
C'est le cas. Face à un adversaire très faible.
Ça reste un adversaire très faible.
C'est parce que c'est Mbappé, c'est l'équipe, je te dis rien.
Jules Fontaine, il avait marqué 4 buts en 1958.
C'est l'Allemagne. Hein.
C'était l'Allemagne de l'Ouest pour la 3ème place. Là, c'était pas la même. On avait gagné 6-3. Bon, voilà, tout est relatif maintenant. Il y a des notes qui sont bizarres d'ailleurs. Loris, il a 6 dans l'équipe. 6, excuse-moi, mais il a pas touché de ballon. Donc, pourquoi on le note déjà ? On note pas ça.
Il faudra demander à l'équipe. Hein, je crois voilà. que c'est eux que ça regarde.
Bon, moi, ça fait un moment qu'ils sont un peu perdus en crédibilité sur les
voilà,
notations.
Voilà, on ne va pas trop polémiquer sur ce canard.
Non, non, évidemment. Mais après, Coman. Je
voudrais arrêter de le lire, c'est tout.
Bah, je lis tous les jours, c'est ma Bible. Mais Coman, il mérite 9.
Oui, sûrement. Je te crois totalement.
Si Benzema a 8 et Mbappé a 10, lui il mérite 9.
Ouais, Coman, donc Jérém qu'on a installé au poste derrière droit.
En piston droit pour remplacer Pavard et Dubois qui ont fait des contre-performances récentes en équipe de France. Et là, Coman, juste en une seule mi-temps, a prouvé à Deschamps et à toute la France entière qu'il pouvait
faire
ce poste. Que ce soit en défense, en attaque, en passe, en niveau des centres et au niveau de l'intensité sur tous les dribbles qu'il a fait, c'était 100% de réussite.
Ah non, dans un schéma en 3-5-2 plutôt.
Hein, c'est ça, je suis d'accord. Là, Deschamps, je pense, a trouvé son dispositif qui permet de faire le lien entre la défense et l'attaque. Là, ce qui nous avait pêché hein, à l'Euro où on avait une France qui était vraiment distendue entre l'attaque et la défense au milieu de terrain. Il n'y avait plus cet équilibre. Et ce qui fait qu'on s'était pris beaucoup de contre-attaques, notamment face à la Suisse. On avait eu beaucoup de trous au milieu de terrain. Et là, je pense que ce 3-5-2 permet un peu plus d'équilibre. On a deux pistons qui vont très vite. Théo Hernandez. Et Kingsley Coman, donc Théo Hernandez qui s'affirme là comme le numéro 1 aux arrières-gauches, hein, incontestablement, ce qui va permettre aussi de replacer certains comme Lucas Hernandez plutôt en défense centrale avec une défense à 3. Je pense que Deschamps a trouvé son milieu de terrain. Après, voir qui met avec Kanté, s'il met Rabiot, Pogba.
Rabiot qui rend une belle copie, hein, Rabiot, premier match en bleu pour Adrien Rabiot.
Non, mais c'est ça, Rabiot qui fait plutôt un bon match. Il équilibre le milieu de terrain parce qu'il n'est pas comme Pogba à vouloir trop se projeter, à vouloir trop se porter vers l'avant. Je trouve que ça permet d'avoir une assise quand même défensive tout en étant quand même projeté vers l'avant. Et en plus, avec ce trio offensif, Mbappé, Benzema, Griezmann, c'est parfait.
Et quand on pense qu'en plus qu'au niveau du milieu de terrain, on a en couteau suisse. Le jeune Tchouaméni qui arrive derrière, qui est très très fort aussi.
Très fort aussi.
Plus le duo Kanté-Tchouaméni ou alors le duo Pogba-Rabiot, ça peut être du très très lourd en complémentarité et selon les adversaires qu'on va recevoir.
Exactement. Donc, non, vraiment là, c'est un match qui a permis un petit peu de se roder, de voir ce que peut donner ce 3-5-2. On en a pour l'instant, on est plutôt satisfait. À voir ce que ça va faire contre la Finlande, qu'une adversaire censée être un petit peu plus élevée que le Kazakhstan.
Qui peuvent encore se qualifier.
Qui auront un match à enjeu. Donc ça sera pour la Finlande va jouer.
Parce que là, l'Ukraine joue la Bosnie. En Bosnie, l'Ukraine aussi peut se qualifier.
Exactement.
Donc là, ça va être chaud parce que la Finlande veut absolument, nous on est qualifié. Donc on va voir ce que ça va donner.
C'est pour les barrages.
Ouais, pour les barrages, ouais. Mais ça va être chaud, ouais.
Bah, on va continuer avec dérouler les autres groupes. On commence par le groupe A avec la surprise qui est tombée hier. Le Portugal devra attendre le mois de mars pour connaître son destin en Coupe du Monde. Ouais.
Grâce à Mitrovic, le buteur de Fulham, hein, qui est déjà en pleine forme avec l'équipe de Fulham en Championship, qui donne la victoire aux Serbes 2-1.
Et donc il faudra que le Portugal passe pour les barrages pour la 5e Coupe du Monde de Ronaldo.
C'est ça. Après,
c'est sa 5e participation quand même, c'est impressionnant. Quand même.
Mais après, ils ont l'habitude, les Portugais, de passer par les barrages. On les a vus notamment sur les dernières Coupes du Monde ou Euro face à la Bosnie ou face à la Suède de Zlatan pour la Coupe du Monde 2014, par exemple. Donc va falloir pas non plus se louper parce que c'est une nouvelle forme de qualification pour les barrages.
C'est sur
un match. Donc il y avoir des demi-finales.
Jean-Marc et Charles ou Jérémy, vous allez m'expliquer, parce que j'ai lu ça dans la presse aujourd'hui, que certaines équipes, comme l'Autriche, étaient qualifiées déjà
aussi,
parce qu'ils ont fini première dans leur groupe.
En Ligue des Nations.
Il y a deux équipes repêchées
pour les barrages. Parce qu'elles ont très bien performé en Ligue des Nations, malgré le fait qu'en qualification pour la Coupe du Monde,
elles soient un peu ratées, comme
l'Autriche notamment d'ailleurs.
Et l'Autriche, la République tchèque, et puis je ne sais plus quel pays.
On n'a pas encore toutes les infos sur la formule, Fabrice, mais on va parler déjà de ceux qui y vont sûr. Dans le groupe B, on avait une finale de groupe hier entre l'Espagne et la Suède. Et l'Espagne qui s'impose sur le plus petit des scores, 1-0, en fin de match.
Et sur le fil, ouais.
Sans convaincre, l'Espagne s'impose. Donc bon, on va voir
on attendait de voir peut-être Zlatan sur le terrain.
Il est rentré tardivement. Il y a eu un beaucoup franc de sa part en fin de match. Bon, c'est la Suède, c'est une bonne équipe. Hein, faut pas oublier, ils ont plutôt performé à l'Euro. Donc c'était compliqué pour l'Espagne. Donc à voir. Donc la Suède qui va devoir du coup passer par les barrages. aura quand même des chances de se qualifier pour la Coupe du Monde au vu des autres équipes qui sont barragistes.
Ça dépendra du tirage. C'est Morata qui a qualifié l'Espagne.
Exactement, Morata, ouais, 86e.
Qui était bien décrié. Belle frappe de Dani Olmo, hein, donc là, pour touche la barre, Morata en bon renard qui la met au fond.
Donc pour l'instant, on en est en 9 qualifiés. Pour l'instant, l'Allemagne, la Belgique, le Brésil, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, la France, la Serbie et évidemment
le Qatar.
Le pays hôte, le Qatar.
Ouais, donc on attend l'Italie qui doit se qualifier.
Alors l'Italie, ça va être
ce soir.
L'Italie,
c'est la Suisse ou l'Italie.
Exactement, parce que l'Italie se déplace en Irlande du Nord, en même temps la Suisse reçoit la Bulgarie. Donc ce qui veut dire que si la Suisse gagne et que l'Italie ne gagne pas, c'est-à-dire que l'Italie va devoir du coup passer par les barrages. Mais dans le cas inverse, l'Italie pourrait passer. Donc, sachant que, alors je ne sais pas comment ça se passe, si c'est un goal à virage particulier.
Ou alors, goal à virage, l'équipe gagne.
Ils ont fait mal. Alors, c'est pas particulier, c'est un goal à virage général. Donc, et du coup, il y a deux buts d'avance pour les Italiens.
Et la Suisse a fait match nul à Rome. Donc, ça va compter aussi.
Et c'est surtout que l'Irlande du Nord n'a pas perdu depuis 3 matchs à domicile. C'est le facteur
qui pourrait embêter les Italiens. Ça serait une surprise de voir les champions d'Europe passer par les barrages.
Surtout, c'est le pénalty de Jorginho qui, face à la Suisse, l'a loupé en fin de match. Il peut coûter un peu la
vie. Encore avec sa petite feinte qui déstabilise plus les Irlandais.
Oui, je pense qu'il fait, enfin, il sait sa méthode. Après, c'est une méthode qui marche un temps. Après, bon, peut-être qu'elle va peut-être revenir. Ouais. Hein, mais Bonucci a toute confiance en lui. Donc, bon, on espère que pour l'Italie, ça serait moche de ne pas avoir le champion d'Europe en titre à la Coupe du Monde.
Oh, ils passeront par les barrages, au pire.
Oui, au pire. Mais on ne sait jamais ce qui va se passer. La dernière fois, ils sont fait éliminer par la Suède.
Et sous deux fois d'affilée.
Exactement. Ouais. Donc, il faut faire attention.
Moi, ce qui me reste de ces qualifs pour l'instant, c'est que bon, l'Allemagne a le meilleur virage avec 36 buts marqués, 4 encaissés. Mais c'est le Danemark. Danemark,
9
ils ont
matchs,
pris,
9 victoires.
Ils ont pris un seul but contre les îles Féroé.
Voilà.
Olsen qui a marqué à la 87e minute.
Après, le Danemark avait un groupe assez, on va dire, favorable. Oui, c'est pas non plus grand. Mais le Danemark, il faut se rendre compte qu'ils font de très bonnes. Ils ont fait un très bon euro, finalement, alors qu'il y a eu pourtant le Kai Eriksen qui, franchement, a fragilisé.
Oui,
on aurait pu croire que ça allait fragiliser le groupe.
Fragiliser Charles Hou.
Ou au contraire, remobiliser, solidariser, tout ça.
Intensifier,
ils se sont remobilisés. Enfin,
ils se sont dégagés, quoi.
Ouais. Il y a eu une osmose entre le groupe qui a été important parce qu'ils se sont dit, on va faire ça pour lui.
Tout à fait. Et ça a plutôt bien marché.
Ouais, carrément.
Ils sont à 9 matchs, 9 victoires. Et ils jouent leur dernier match face en Écosse.
Oh, la France n'est pas en reste parce qu'on a quand même 26 matchs sans défaite.
Oui,
c'était pas arrivé depuis 94, de 94 à 99.
Tu considères la défaite contre la Suisse comme un match sans défaite?
Évidemment, c'est pas ça qui compte. C'est un faux match.
Non, c'est clairement compté comme ça. Hein.
C'est un match nul, c'est pénalty, c'est pas compté comme une défaite.
C'est pas Charles qui décide ça, c'est la FIFA et l'UEFA elles-mêmes qui décident.
Ça compte.
J'ai pris un coup les oreilles, mais c'est vrai. Mais c'est pas considéré comme une défaite.
Totalement.
Les Pays-Bas ne sont pas encore qualifiés. Hein. Là aussi, on attend en tête de leur groupe, mais ils devront jouer la Norvège de Haaland.
Haaland qui est blessé, donc ça va être un peu plus compliqué. Donc ils reçoivent la Norvège, donc ça va être très compliqué, sachant qu'ils sont 3 potentiellement à pouvoir se qualifier. Les Pays-Bas sont devant avec 20 points. Et Turquie et Norvège, deuxième et troisième à 18 points. Donc ça va être très compliqué. La Turquie, sachant qu'ils reçoivent
Monténégro, ils ont perdu leur dernier
match. Facile.
Donc ça va être c'est encore très très serré, sachant que le troisième n'ira pas en barrage. Donc il y aura un petit peu
c'est
le couillon
de l'histoire.
C'est le
challenge du jour.
Il y a des groupes serrés,
très
serrés par rapport à certains.
On a dit la Belgique, elle a son billet.
La Belgique a son billet aussi, un groupe E.
Et pas encore les Anglais.
Et les Pays de Galles devraient se qualifier pour les barrages. Voilà, les Anglais
se déplacent à Saint-Martin.
Saint-Marin.
À mon avis, ils préféreraient se déplacer à Saint-Martin
qu'à Saint-Martin. Mais je pense qu'ils vont passer de bonnes vacances à Saint-Martin après.
Normalement, Saint-Marin, ça devrait le faire.
C'est la seule équipe qui a 0 points, je crois.
Oui, mais ils sont à moins 35 de goal à verge.
Exactement.
C'est une petite équipe, Saint-Marin.
Bon, par contre, il va falloir attendre maintenant plus d'un an pour l'avoir, cette Coupe du Monde. D'habitude, quand on a terminé les éliminatoires, c'est 6 mois d'attente. Là, ça sera un an. On n'aura pas droit à notre traditionnel tirage au sort en décembre, puisqu'on a les barrages en mars.
En avril, le tirage au sort.
Tirage en avril, oui.
Le 1er avril, c'est pas une blague.
Et juste une équipe qu'on n'a pas citée, c'est l'Allemagne qui, du coup, s'est qualifiée, et la Macédoine du Nord qui
s'est qualifiée pour les barrages. Première fois.
Exactement.
Sont peut-être.
Alors la Macédoine,
potentiellement, on a vu à l'Euro. Hein,
on a
eu
à l'Euro
hein. Ouais. Déjà. Hein, donc
potentiellement, Coupe du Monde, c'est la première fois.
Exactement.
Comme la Serbie, c'est la troisième fois seulement qu'ils se qualifient. Je crois que c'était 2010, 2018. Ils n'ont jamais passé le premier tour, mais ils se qualifient pour la troisième fois aussi.
Donc, ils deviennent plus réguliers.
On pourrait retrouver trois équipes de l'ancienne Yougoslavie, la Serbie, la Croatie et possiblement la Macédoine du Nord.
Et ce qui est impressionnant, c'est la Grèce aussi qui est potentiellement éliminée.
Potentiellement. Ouais, mais la Grèce, je crois que la Grèce, il y a longtemps qu'ils ont sombré. Hein. À part l'exploit au Portugal.
La Grèce, c'est comme leur monument, c'est un petit peu délabré.
Elle était pas mal.
Ça sera la conclusion de cette page football, Maëla.
Juste une dernière. Alors, on sort des qualifications. C'est le football féminin, c'est la victoire de Lyon. PSG en foot féminin 6-1.
Oui, bah oui,
dans un contexte un petit peu.
Alors, je suis en train de lire tout ça. Donc, c'était avec le retour d'Ada Egerberg qui a mis 2 buts.
Exactement.
Ouais. Et puis, c'est le contexte de l'agression de Keira Amraoui. Alors,
cette semaine.
Il y a eu une joueuse qui a été mise en cause, Aminata Diallo. Ce n'est pas elle, là je suis en train de lire, apparemment il y aurait une histoire avec Eric Abidal.
Oui, Eric Abidal va être entendu par le procureur de Versailles. Voilà,
parce qu'apparemment la puce électronique du téléphone de la joueuse était au nom d'Abidal.
Est au nom d'Abidal et apparemment il serait peut-être fréquenté quand ils étaient en Espagne.
C'est Dallas cette histoire.
C'est Dallas cette histoire, mais c'est grave parce que du coup l'absence de Keira Amraoui a pour moi énormément manqué au sein du PSG qui était inexistant. Le scénario du match les a pas aidés puisqu'il y a eu un pénalty et puis un carton rouge un petit peu après.
Un peu sévère.
Oui, et puis on parle d'une joueuse qui s'est fait battre à coups de barre de fer. Hein.
Oui, non, mais c'est après. Voilà,
c'est là que c'est très grave. Et du coup, j'en profite, je rebondis et je passe de l'Olympique Lyonnais à l'OL Rennes qui ne jouera pas malheureusement la finale du championnat américain. Là où, puisqu'elles ont été éliminées par Washington Spirit 2-1, et c'est là où jouait depuis cet été Eugénie Le Sommer,
exactement,
qui a marqué 7 buts.
L'OL Rennes, qui est une filiale un peu de l'Olympique Lyonnais.
Jennifer Marozan et puis la gardienne
Sarah
Boidy.
Allez, on a été complet, Maëlle, on va ouvrir notre page handball, c'est Hashtime.
Hashtime. Money Time. Toute l'actualité du HBC Nantes par notre bande d'experts. Débrief, infos, interviews.
Hashtime. Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et puisqu'on parle du H, c'est le moment de vous parler de la saga XXL. Pour vous, auditeurs, c'est évidemment les 3 matchs du H qui seront délocalisés à la Grande Halle XXL. C'est pour le 7, le 11 et le 15 décembre, les réceptions de Benfica, Chambéry et du Paris Saint-Germain. Il faut y aller, c'est un record de spectateurs qu'on attend, qui doit être battu. Hein.
30 000 sont
attendus. 30 000 spectateurs.
Sur les 3 jours, je te rassure.
Sur les 3 matchs, ça se passe sur billetterie.hbcnantes.com. Voilà, les violets. Alors, ils étaient en Coupe de la Ligue à la H Arena, c'était mercredi, face à Créteil.
Et une victoire 37-29 de Nantes, somme toute assez facile. Nantes qui avait quand même l'équipe la plus facile dans ce tirage et qui retrouvera au Final Four à Metz le 18 et 19 décembre, non moins que Paris, le PSG, Montpellier et Chambéry.
Ouais, 2 joueurs qui ont brillé, Valérie Rivera à 100% à 7 sur 7 sur son aile et puis Alexandre Cavalcanti à 7 sur 8, hein, l'arrière gauche du H hein, qui monte en puissance en ce mois de novembre. On devrait le retrouver dans l'équipe type du mois. Ça continuait samedi, et là c'était de la Liqui Moly Star League, notre championnat. La réception d'Istres, il ne fallait pas se rater sur ce match.
Et une victoire 36-31 pour le HBC Nantes face aux hommes de Gilles Deroux. Avec belle prestation encore de Valero Rivera avec 9 buts, dont 2 pénaltys. Emrin Kmin à 6 buts. Et puis deux autres anciens, David Balaguer et Kirill Lazarov à 5 buts tous les deux.
Ouais, ils ont fait la course en tête hein, pendant 60 minutes. Il reste deuxième au classement, rejoint par Aix hein, qui fait la bonne opération d'aller s'imposer à Bougnol, Jean-Marc.
Exactement, dans un Bougnol rénové. Et ça leur a pas réussi au Montpellier, hein, défaite logique.
Ouais. Défaite d'un but, les hommes de Hanty qui s'imposent face à Montpellier. Montpellier qui a du mal dans ce championnat, seulement 7e.
Seulement 8e même.
8e.
8e avec seulement 9 points, 4 victoires, 4 défaites, 1 match nul. Donc c'est un début de saison très compliqué pour les Montpellier.
Un championnat improbable à l'image de Toulouse qui a été arraché. Un match nul improbable, c'était vendredi soir.
À Cesson-Sévigné,
27 partout, alors que Cesson menait 19-12 à la mi-temps. Du coup, avec ce match nul, Cesson au classement ne reste pas avec Nantes et Aix.
Mais égalité avec Nîmes à 11 points.
Exactement, non, c'est un championnat complètement fou.
Et à noter juste un truc par rapport à ce que tu disais, très bon match de Aymeric Mine, qui du coup est dans le fait de la semaine, de cette semaine, donc c'est bien pour le Nantais.
Un bon joueur qui s'est pas perturbé avec sa sélection des deux matchs de la Golden Line et avec l'équipe de France. Et comme on parle de l'actu du H, les deux infos de la semaine ou de la journée. Le retour de Jorge Maqueda, ça sera pour la saison prochaine, qu'on a bien connu il y a quelques années. Et puis la signature, c'est tout récent, de Toto.
C'est une blague.
Ce n'est pas une blague. Jérémy Toto, 29 ans, qui nous arrive du Vardar Skopje.
Et sur l'agenda, demain, suite de l'EHF European League pour le H avec la réception de GOG, les Danois. Donc une belle affiche de Coupe d'Europe pour nos violets demain.
Et dans la semaine, il y aura un déplacement.
J'ai pas noté sur l'agenda ce qu'il y a pour la fin de semaine. Pour le H.
Je vous dis ça tout de suite.
On va parler des Neptunes. Là aussi, la semaine des Neptunes, c'était deux matchs. Un match de Ligue Butagaz Énergie et c'était la réception de Fleury-Loiret. Jean-Marc, tu y étais, c'était mercredi.
Exactement, une victoire 33-26 contre Fleury-les-Aubrais, l'équipe qui est dernière du championnat de Ligue Butagaz. Somme toute, un match assez facile, 16-10 à la mi-temps. Nantes a pu dérouler, j'ai noté Nathalie Hagman, dont tu me reparleras aussi tout à l'heure, avec un 8-9. Belle prestation depuis quelques matchs de Nathalie Hagman.
Le couteau suisse de cette équipe, qui joue un petit peu à tous les postes.
Pour rassurer les gens de Fleury, non, Fleury a enfin gagné un match, c'était dimanche en Coupe de France. Elles ont éliminé... Saint-Amand.
Et pour les Neptunes, la semaine continuait. C'était l'entrée, Jérémy, en European League pour le tenant du titre. On rappelle que nos Nantaises sont revenues avec la coupe. C'était en Roumanie en juin dernier. Et là, pour accrocher les poules, il fallait se débarrasser. Il faut toujours se débarrasser donc d'un sparring partner qui nous vient de Suède. Jérémy, c'est le club de Ours. Oui, et les Neptunes ont bien fait ça avec une large victoire. 39-24.
Ça, elles sont bien rentrées dans leur match d'entrée de jeu. Elles ont atomisé dès la première mi-temps les Suédoises. Deux débuts de mi-temps, elles ont un petit sursaut de concentration qui a créé une petite tension, elles ont eu une petite faute. Mais malgré ça, elles ont réussi à tenir la tête et pour renverser la vapeur. Encore un très grand match de Nathalie Hagman qui a fait un 7 sur 7 et dont 2 sur 2 mètres. Et un 7 mètres de provoqué qui a laissé à la joueuse Raissa Dapina de marquer deux fois d'affilée. Et sinon, grosse performance de la nouvelle française... Orlan Aanda.
Ouais, une équipe des Neptunes à consonance suédoise, puisqu'on rappelle que, outre Nathalie Hagman...
Karin Stromberg
pour compléter le côté suédois, mais aussi une danoise.
Ah oui.
Fille voleur qui a marqué deux buts hier, qui est une ailière.
Et la quatrième nordique, c'est une Norvégienne, Marie Finstad Bergum.
Ouais, là aussi, une équipe assez complète finalement, avec différents profils. Ça nous a bien plu. Un écart de plus 15 à la question en conf de presse. Guillaume Sauré va nous répondre ce qui évoque pour lui ce plus 15, Maëlan.
Plus 15, Guillaume, c'est un écart qui te... qui te permet de voyager en première classe avant le match retour et le déplacement ensuite.
On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais voilà, on va faire la fine bouche plus 15. C'est un écart conséquent. C'est un écart qui va nécessiter malgré tout du travail cette semaine parce qu'elles nous ont mis en difficulté sur deux, trois petites choses, notamment sur leur jeu à 7 ou quand on s'est livré un peu trop, on a pris des buts un peu, on va dire qu'on leur a offert un petit peu des solutions, mais voilà, on va continuer à travailler. Ça va nous permettre, nous, de pouvoir essayer de nouvelles choses sur le secteur offensif, donner du temps de jeu à tout le monde et voilà, et essayer de capitaliser là-dessus. Ouais.
C'est pas un coup d'arrêt, Guillaume, c'est très international. À un moment donné, on a l'impression que les Neptunes trouvent leur pénitude.
Je ne l'espère pas. On va miser sur cette trêve internationale pour capitaliser sur ce qui a été fait maintenant depuis 2-3 semaines. Et l'objectif est, sur ce moment-là, aussi de travailler sur les savoir-faire individuels. Donc, si on ajoute de la valeur individuelle à une valeur collective qui est déjà en train de prendre un petit peu... ça n'en sera que meilleur. Donc c'est l'objectif, améliorer un petit peu individuellement pour rendre le collectif meilleur.
Bon, vous l'avez entendu, avec beaucoup d'humilité, rien n'est fait, mais nous, on le sait, les Neptunes rejoindront sans doute, même c'est sûr, la phase de poule.
Où les autres équipes françaises se sont bien débrouillées, puisque Chambray a gagné 30-27 face à Molde. Et une autre équipe qui devrait se qualifier, c'est Besançon, avec une victoire 34-23 face à l'Atlético Gardès. À noter les victoires également de Brest et de Metz en Ligue des Champions.
Ouais, on rappelle, ça sera le dernier match de l'année pour les Neptunes, puisque démarre le Mondial de handball en Espagne.
Et pour toutes les équipes, du coup.
Exactement. On a été complet sur le handball, on a donné le programme. Oui, Charles, une info.
Et du coup, pour le programme, Nantes qui joue cette fin de semaine, le déplacement à Chartres.
Chartres.
Le HBC Nantes.
Pour le HBC Nantes, évidemment.
Le H à Chartres en fin de semaine en Liqui Moly Star League. Maëlan, on va passer à toute autre chose. Les sports méca, c'est Nitro.
And Fernando, is there any damage? Is there any possible damage?
Nitro, c'est toute l'actualité de sport mécanique tous les lundis soirs à 19h dans Money Time.
Et on démarre avec de la moto épilogue de la saison Grand Prix de Valence. Et pour cette dernière course, et ben, Ducati trop puissant.
Exactement, un récidiviste qui gagne encore, c'est Pecco Bagnaia, le vice-champion du monde de cette année derrière Fabio Quartararo, qui gagne son quatrième Grand Prix en 6 courses. Donc c'est une très bonne fin de saison pour l'Italien et surtout pour Ducati qui montre qu'ils sont très puissants, un triplé surtout.
Triplé sur la pole, triplé sur la ligne d'arrivée, il n'y a pas eu de photo, tout le monde était d'accord.
Jorge Martin qui a résisté 20 tours.
Exactement.
Ouais, mais ça n'a pas suffi. Les Ducati sont quand même vachement plus puissantes. Mm. Et bon, par contre, ce qu'il faut marquer de ce Grand Prix, c'est ce qu'il faut garder, c'est voilà, la dernière de Valentino Rossi.
Valentino.
El Doctor.
12e sur cette course.
10e.
Ouais.
Dixième. Dernier top 10.
C'est sa meilleure perf de cette fin de saison. Il avait galéré.
Ouais. Et ce qu'il y a de bien, c'est que Bagnaia, il a eu. Comme il fait partie de la VR46, donc l'école de pilotage de
Valentino Rossi, il a été formé à cette école.
Il a porté un casque que Valentino Rossi a eu en course.
Tous les pilotes qui étaient un peu affiliés vers 46.
Morbidelli. Et Morbidelli, il a dit, je n'ai pas osé le dépasser.
Marini aussi, pareil.
Ouais, voilà, ils ont un petit peu respect complet pour qu'ils visent les points.
Ils l'ont peut-être aidé, d'accord.
Ils l'ont pas aidé.
C'est méchant de dire ça, Jean-Marc.
Ils n'ont pas forcé. Mais en tout cas, Pecco Bagnaia était très content de dédier sa victoire à Valentino Rossi.
Il faut savoir que le Grand Prix, le championnat a été joué. Personne n'a rien à perdre, c'est son dernier Grand Prix. Il fallait lui faire plaisir.
Je pense que
certains pilotes auraient même pu s'arrêter pour le laisser passer et finir son podium.
Bon, on revient quand même. On revient sur la fait course.
Il y a de l'argent en jeu, excusez-moi.
Non, mais après, il faut dire ce que même représente Valentino Rossi. Valentino Rossi dans
26
le monde.
Ans.
C'est 26 ans. Au top niveau.
C'est 9 grands prix. Il a commencé sa carrière, j'étais pas né. C'est pour dire quand même. Et j'ai 20 ans. Donc, c'est pour dire la longévité.
9 titres de champion du monde, 7 titres dans la catégorie Rennes, 432 grands prix, 115 victoires, 235 podiums.
165 plus
positifs. C'est une légende. Enfin,
115 victoires. C'est incroyable. C'est l'équivalent des Roger Federer, Djokovic au tennis, des Lionel Messi,
Maradona. J'allais dire qu'il sport, qui rejoint Agostini dans la.
Voilà, tout à fait. Mais c'est ce qu'il le dit.
Les deux étoiles qui représentent le MotoGP, c'est Agostini et Rossi.
Et ce qui est marrant, c'est qu'il a, il a fait, je ne sais pas si vous avez vu, le Grand Prix, ça s'est passé le 14-11-21. 14, 11 et 21, ça fait 46.
Oh, c'est beau.
Son numéro. Magique.
Son numéro.
De la numérologie.
C'est incroyable.
Bon, la course, donc, triplé des Ducati. Oui. Jorge Martin qui n'a pas réussi à résister donc, Bagnaia pour sa première victoire.
C'est ça, Jorge Martin qui s'était blessé en début de saison à Portimao, qui du coup avait loupé quelques grands prix, n'avait pu du coup être régulier cette saison, mais qui là du coup s'affirme en cette fin de saison. Il a gagné quand même une course cette saison, il fait quelques podiums. Donc Jorge Martin, sachant que ce n'est qu'un rookie, va avec Pramac l'année prochaine, va falloir compter sur lui pour le championnat du monde.
Zarco restera donc.
Zarco reste un meilleur pilote indépendant. Donc franchement, là, les Ducati sont très bien préparés pour l'année prochaine.
Ça va être un très beau championnat l'année prochaine, parce que là, Quartararo commence à se poser des questions. Sa moto n'est pas vraiment à la hauteur. Bon, Ducati. Elles sont vraiment au-dessus.
Ah ben largement.
Et là, on a vu sur la course, le champion finit cinquième, très loin des Ducati. Je crois, au dernier tour, il était rendu à 6-7 secondes de retard.
Ah mais oui.
Plus, c'est... par moment.
Et encore, il fait un très bon Henri, parce que quand on compare par rapport aux autres Yamaha, il est largement au-dessus.
Il reste 3 Grands Prix. C'est pas Quartararo qui est champion.
Non.
Attention, hein.
C'est sûr.
Ah, c'est sûr. Donc, Quartararo, qui a quand même le plus grand nombre de victoires cette saison avec 5, a fait son travail sur le début et milieu de la saison.
Et quand les Ducati étaient moins rapides.
Exactement. Ouais,
il gagne 4 grands prix sur les 6 derniers.
Donc, on peut être inquiet.
Pour l'année prochaine, Yamaha ne met pas sa moto au niveau, ça va être très compliqué pour Fabio de pouvoir compléter, sachant qu'il va y avoir un très dense, il va y avoir une nouvelle équipe qui arrive en MotoGP. Donc, ils vont être 24 pilotes cette année, l'année prochaine, au lieu de 22. Bah, c'est la team Vert 46, Vert 46 de Valentino Rossi, qui du coup sera équipé Ducati en plus. Hein.
Mais les pilotes, ça va être.
Les deux pilotes sont Luca Marini, donc, qui était un pilote d'accord, à Vinci cette année, et Marco Bezzecchi, qui était un pilote. Sky en moto 2.
D'accord. Okay.
Et qui était champion du monde moto 2, il me semble.
Non, c'est pas lui. Il a dû finir. Il finissait 5 ou 6. Mais il a fini 2-3e. Il est sur le podium du championnat du monde. Il se battait avec Bastianini notamment.
Donc il va reconquérir un titre de champion du monde en tant que patron d'écurie.
De toute façon, c'est logique. Mais on peut espérer. Donc ça va être.
Ça sera sur une moto Yamaha ou.
Ça sera sur Ducati, ça. Ça sera sur Ducati. Donc, mais il y aura beaucoup de Ducati l'année prochaine. Ça va être un.
Je vous ai préparé un petit quiz pour tout à l'heure, d'ailleurs. 4 questions seulement.
Ça va être rapide. Et notamment, donc, on peut annoncer le résultat, c'était en Moto 2. La Moto 2, donc, c'est Rémi Gardner, l'Australien, qui du coup devient champion du monde, comme son père, qui était en 87, je crois bien, qui était champion du monde.
Fils
comme
de
son
Wayne
numéro.
Reiner.
Donc, exactement. Tu avais bien raison l'autre jour quand on en parlait. Avec Cyril, c'était bien le fils.
Lui qui, du coup, devant son coéquipier au champion du monde de 4 points, Raoul Fernandez, et qui, du coup, les deux vont passer chez Tech 3, Red Bull KTM Tech 3, le team de Hervé Poncharal, le français. Donc, ça va être qui remplace en lieu de place de Danilo Petrucci et Iker Lecuena. Donc, il va y avoir beaucoup de rookies l'année prochaine, notamment Fabio Di Giannantonio qui viendra aux côtés de Ené Bastianini sur la team qui remplace Avintia. Donc, ça va être un très beau plateau paddock l'année prochaine.
Et c'est intéressant et beaucoup de challenge, du coup.
Exactement.
C'est un peu comme en Formule 1. Bon, l'année prochaine, on espère qu'Hamilton sera encore là. On ne le sait pas encore pour l'instant. Il l'a pas dit. Hein, il l'a pas dit du tout. Mais il y aurait Russell avec Hamilton. Verstappen, ça va être chaud.
C'est le moment d'enchaîner alors avec le Grand Prix d'Interlagos, Grand Prix du Brésil. La lutte pour le titre continue entre Hamilton et Verstappen.
Exactement, ouais. Ça va être c'est le championnat le très très serré, un dénouement impossible.
Moi,
ouais,
ça fait longtemps que j'ai
sur
pas
les hybrides.
Vu un aussi
beau Grand Prix.
Exact.
Franchement.
La combativité et tout ce qu'il fallait.
Il y en a eu des beaux quand même cette année. Hein, c'est
oui,
vrai,
il y en a eu des beaux.
Mais c'est vrai que là, sur le fait, le duel Verstappen-Hamilton et tout, ils étaient très proches. C'est vrai que c'était très impressionnant.
Et puis, il y a une rivalité entre les deux pilotes, comme on ne le voit pas vraiment toujours à l'écran. Mais il y a une rivalité quand DRS, ok, d'accord, il est un peu large il est pénalisé, c'est quand même Verstappen qui le dit, quoi.
Bah, il le dit pas, il va regarder, il regarde
son maillot, quoi.
Voilà. Il y a quand même une rivalité, qui
a pris la amende et qui a dit, vas-y, allez-y, donnez-moi encore.
Parce qu'au départ, voilà, c'est parti comme ça, et après, bon, sur le sprint, Hamilton revient.
Il passe de la 20e position sur la grille de départ de la course sprint à la 5e position.
Okay. Et là, incroyable. Il repart 5 places derrière.
Du coup, avec sa pénalité par rapport au changement de moteur, par un élément moteur qui était changé.
Mais ça s'est vu sur en course. Hein.
Ça s'est vu en course, hein. il était extrêmement rapide en ligne droite.
Et après, on a un Verstappen, Pérez, tout ça, tout le monde ferme les portes, quoi. Bottas qui essaye de... Voilà. Après, il y a une consigne de course que Bottas doit passer. Ben,
il laisse passer,
c'est normal. Passer Hamilton, c'est normal. Et l'autre, il va à la chasse. Mais il y a deux lapins de Garenne devant. Ouais, et l'autre, il va à la chasse. Il y va, mais carrément franco, quoi.
Ah, mais il a tout donné. Il a dit qu'il était en attaque maximum pendant tout le Grand Prix. Et c'est vraiment.
Il n'a pas eu photo. C'est qu'un 9e tour, boum, il passe, mais.
Il avait déjà failli passer au 46e tour quand il y avait eu un peu.
Pas d'enquête, des commissaires. Hein,
non, c'est au virage 4.
Verstappen l'a dit, il était trop rapide pour moi.
Ah oui,
j'ai pas voulu, et je pense qu'il a assuré après lui.
Oui, après, voilà.
Il savait qu'il avait 14 points d'avance. Il dit bon, je préfère.
Oh, il a voulu le foutre dans le décor à ce moment-là.
Il ne veut pas le foutre dans le décor. Il veut juste le pas laisser passer parce que de toute façon, il sait que son freinage, il y a un grand dégagement sur du bitume après, donc il n'y avait aucun risque.
On n'est plus dans les mentalités de certains combats d'époque à l'époque entre Senna et Prost, ou
Schumacher.
Schumacher était très fort pour ça aussi. Ouais. Et il en a balancé quelques-uns à quelques grands prix de la fin du championnat. Et là, non, je pense qu'il s'est fait battre à la régulière, il a accepté. Il dit voilà, mais je perds 14 points, d'accord.
Qu'il reprend l'avantage du coup, Hamilton là, sur,
Non, il est à 14 points, il est toujours à 14 points,
sachant que Pérez a pris le point du meilleur
le
tour.
Le point ça du meilleur tour, il est passé à 13 points. Et là, c'est un beau travail d'équipier, parce que Hamilton l'avait, ce point-là. Et à 3 tours de la fin,
Il s'arrête quasiment sur le dernier tour, et donc sur le dernier tour il fait le circuit le point du meilleur tour Pérez, donc c'est un bon point pour le classement constructeur aussi, hein, ça joue encore.
On peut aussi dire Gasly qui fait il a su Honda comme équipier, mais avec sa 7e place il égalise les points. Ils sont en égalité avec Alpine.
Exactement, il permet
avec Alpine. Alors que lui, il n'y a que lui qui a marqué des points après cette année.
Il a mis 82% des points de AlphaTauri cette année avec Pierre Gasly. Donc c'est quand même incroyable. À noter aussi les bonnes performances des Ferrari qui font 5 et 6, qui sont toujours là, 5 et 6e depuis quelques grands prix, qui engrangent les points et qui du coup dépassent McLaren au classement constructeur et qui prend le large avec plus de 30 points. McLaren qui sont un petit peu dans le dur depuis Spa, la Russie et tout, ils marquent beaucoup moins de points comme Lando Norris qui est vraiment recul.
Alors Charles, dis-moi, Leclerc, il va rester chez Ferrari ou quoi ?
Oui, il va rester encore chez Ferrari, sachant qu'il y a les nouvelles réglementations à partir de l'année prochaine. On va voir ce que ça va donner, mais il restera encore chez Ferrari. Il a signé un contrat en durée jusqu'en 2023.
Parce que moi, je vois un truc, un scénario improbable, peut-être, tu vas me dire. Si Hamilton décide d'arrêter, Leclerc prend la place d'Hamilton chez...
Non, il n'ira pas. Non, si Hamilton décide de partir, ça va être... Moi, je vois soit un truc comme Verstappen, si vraiment Mercedes...
Bah, tu crois ?
Avec la nouvelle
le contrat qu'il a chez Red Bull ?
Il peut, totalement. Si Mercedes est largement devant sur les années à venir avec la nouvelle réglementation et tout, et qu'il y a une place qui se libère, à mon avis, et que Mercedes le veut, Verstappen ira. Après, par exemple, il y a un pilote comme Pierre Gasly qui pourra y venir, qui fait de très bonnes performances.
Total
Wolff l'aime beaucoup.
Pierre Gasly a mené un très grand duel face aux Alpines, qu'il a réussi à gagner finalement face aux Alpines, et il a fait très belle course. C'est un coureur qui monte d'année en année, et qui, de plus en plus, si on le met sur une bonne écurie, pourrait faire de très grosses performances.
C'est ça, parce qu'il avait fait
la saison dernière.
Il s'était un peu loupé chez Red Bull il y a 2 ans, où forcément il était un peu plus jeune. Et là, je pense qu'il a pris de la maturité, de l'expérience. Il est vraiment, je pense, il est au niveau pour pouvoir être dans un top team, sachant qu'il a fait quand même un podium en Azerbaïdjan en début de saison. Donc c'est impressionnant.
Allez, on enchaîne.
Prochain Grand Prix, c'est
ce dimanche. Donc c'est
au Qatar.
Donc nouveau circuit, circuit MotoGP de base à Lausanne.
D'accord.
Donc ça va être un circuit très sinueux, hormis la grande ligne droite. Donc ça va être très intéressant.
Là,
donc,
on fait les 3 derniers Grands Prix de toute façon.
Sur la péninsule arabique.
D'accord. Un mot de WRC pour vous rappeler que la dernière étape aura lieu du 19 au 21, c'est-à-dire cette semaine à Monza, avec l'absence du seul champion du monde qui ne s'appelle pas Sébastien Ottanak, l'Estonien, qui renonce pour des raisons familiales à participer à la course. Et du coup, Sébastien Loeb qui va tenter de conquérir son... son huitième titre.
Et il ne sera pas le seul à pouvoir conquérir la couronne. Hein. Ça va être très serré lors de cette dernière manche.
Il a annoncé aussi qu'il participerait au prochain Monte Carlo.
Allez Mylène, c'est Score en stock. On va parler de nos clubs de Nantes.
Money Time. Score en stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais. Score en stock. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on parle de volley.
Exactement, avec on va commencer par les filles, tout honneur tout aux féminines. Donc le VBN qui se déplaçait à Mulhouse mercredi a été battu 3-7 à 1. Et dans le même temps derrière, elles jouaient samedi à Béziers, elles ont été battues 3-7 à 2.
Oh, rien ne va plus.
Exactement, donc elles sont quatrième au classement du coup avec 17 points, 6 victoires, 3 défaites. Et au programme, donc, il y a un déplacement, c'est mercredi à 19h à Schwerin, c'est à côté d'Hambourg. Hein,
c'est de la CEV ça, hein.
Exactement,
c'est de la Coupe d'Europe.
C'est de la Coupe d'Europe.
Tour donc, préliminaire non, il n'y a pas de poule là, hein, c'est
non, pas dans
16e de finale, pardon.
Exactement, une équipe Schwerin qui est un peu le Cannes allemand puisque c'est 19 titres et 11 Coupes d'Allemagne. Et puis samedi, ça sera la réception du Volero Le Canet, le leader.
C'est noté. Les garçons.
Les garçons, eux, étaient recevaient le Nice, un des derniers du classement.
Tu y étais, c'était hier soir à 17h.
Exactement. Et Nantes s'est pris les pieds dans le tapis. C'était presque incompréhensible. Défaite, alors c'était quand même très serré. Défaite 24-16 dans le premier set. Il retourne à situation 25-16 dans le deuxième set. Le troisième, il le perd, c'est encore serré, 29-17. Et puis, dans le quatrième, Hubert Hainaut a fait rentrer les jeunes parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et du coup, victoire 25-14 de Nice dans le quatrième set. Donc, au classement, Nantes 9e avec 9 points, 3 victoires, 4 défaites. Se déplacera à Toulouse vendredi prochain. Et du coup, le son que je vous ai ramené, c'est celui de Paolo Zonka, l'ancien Nantais qui joue pour Nice.
Alors, avec Paolo Zonka, attaquant de Nice, après cette belle victoire de Nice à Nantes, un bon retour pour vous ici à Nantes?
Oui, je suis très content d'être revenu en France et à Nantes. C'était un plaisir pour moi d'être revenu dans cet endroit que j'ai beaucoup aimé. Et j'étais un peu, je peux vous dire, je ne voulais pas finir comme il y a 2 ans, comme on a fait avec le Covid. C'était vraiment pas facile de finir une saison très belle qu'on avait commencé très bien comme ça. Et donc oui, je suis content d'être revenu, de revoir les belles personnes que j'ai connues ici à Nantes. Belle équipe, on est très content. Et pour l'instant, avant de ces résultats ici, il n'y avait pas trop de résultats, de grosses batailles et avec de grosses équipes, mais pas trop de points et de victoires. Donc ça fait du bien, là, 3 points pour nous, c'est vraiment parfait. Et on a vraiment beaucoup de choses, je pense, à améliorer. Et donc on va continuer le travail comme ça et on va faire la guerre tous les matchs.
Donc voilà, Nantes.
Il est content, Paolo.
Ah bah, il est toujours content. C'est un charmant garçon, très bel accent italien. Donc Nantes a relancé Nice, donc il a de quoi être content. Maintenant, je vais vous parler de foot féminin avec la victoire du FCN à La Roche-sur-Yon grâce à Pilar Khoury et Laurie Neulich. Au classement, donc, le FC Nantes est toujours premier avec le Havre Athletic Club. Metz est troisième avec 1 point de retard après sa victoire contre Lille 2-1. Le week-end prochain, donc, ça sera encore La Roche en Coupe de France pour Nantes. Et dans le même temps, Orvault se déplacera à Notre-Dame-d'Oé, c'est une équipe, c'est le petit pousset de la coupe. Mais pour finir avec le foot féminin, à retenir, marquez tout sur vos calendriers et allez-y, Le 5 décembre à 14h30, le FC Nantes reçoit le co-leader Le Havre Athletic Club. À 14h30, donc le 5 décembre, l'objectif étant de passer les 1000 spectateurs, donc tout le monde à Marcel Saupin.
Et surtout, la première place du groupe, un synonyme de montée dans l'élite.
Et c'est gratuit, merci Charles de le rappeler.
On passe au basket.
On passe au basket avec le NBH qui avait deux matchs cette semaine. Premier match, victoire 91-63 face à Rouen, c'était mardi. Je vous donne en même temps le résultat de vendredi, c'était un match à Grise, Oberhausen, Souffel-Weyersheim. Une victoire 73-87.
4 points dans la besace.
Exactement, ce qui fait qu'au classement, Nantes est deuxième avec 4 victoires et 2 défaites. Recevra Tours vendredi à 20h et on va écouter Lamine Samb après cette belle performance de Rouen.
Qu'on sait qu'ils vont être difficiles, en fait. Parce qu'on sait que voilà, c'est pas évident en fait de jauger une équipe qui est amoindrie. De toute façon, c'est toujours qui tout double pour les genres d'équipes comme ça. C'est que soit ça performe de fou parce que plus personne n'a de pression ou quoi, soit c'est un peu plus difficile pour eux. Et je pense que on a fait. Ça a été un match, on va dire, deux matchs en un match. On a une première mi-temps où Rouen est très bien, les jeunes. Qui étaient en face, qui ont été très bien et qui croient encore au match. Et une deuxième mi-temps où je pense qu'on a aussi le niveau d'intensité qui nous a permis après de créer l'écart. On dit déjà prendre du plaisir, de l'enthousiasme, mais après c'est créer encore plus quelque chose entre nous parce que voilà, on sait que dans une saison il se passe plein de choses, des bons matchs, des moins bons matchs. Et je pense que tout match faut le prendre comme expérience.
Alors, pour terminer le calendrier nantais, je vais vous parler de hockey. Malheureusement, les Corsaires n'ont pas joué cette semaine pour cause de Covid. Deux matchs annulés, celui de Neuilly sur Marne et le déplacement à Strasbourg. Mais à noter, sur le calendrier, samedi prochain, c'est le derby avec la réception des Dogs de Cholet à 18h à la patinoire du Petit Port.
Venez nombreux. Et le gros match, hein, 1er décembre, la réception de Gap aussi. Hein,
oui, exactement, Corsaires. Coupe de France.
Ça va faire du monde à la patinoire. Maëlan, il reste 10 minutes, c'est multizone pour tout le reste de l'actualité.
Money time. Multizone, tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on parle dans Multizone de rugby, c'est les test matchs d'automne. Irlande-Nouvelle-Zélande, c'était samedi. C'était le match que tout le monde attendait. Et l'Irlande a bien surpris son monde en s'imposant 29-20, Jean-Marc. Troisième victoire de son histoire pour les Irlandais. Et ce, en seulement 5 ans. On rappelle, ça avait commencé à Chicago en 2016, au Soldier Field. Il y a 3 ans, à la Viva Stadium. Et encore une fois, les Irlandais battent les Boks. Les Blacks.
Un énorme match. Très très belle victoire des incontestables des Irlandais.
Qui ont confisqué la balle aux Néo-Z. Hein, qui ont très bien fait ceux qui savent faire quand ils avaient le ballon. Mais le problème, c'est qu'ils ne l'avaient pas, Charles.
Exactement. Quand on sait que c'est des très bons manieurs de ballon, ça joue énormément. Ça lâche jamais le ballon. Ça essaie toujours de combiner. En Nouvelle-Zélande, et quand ils sont privés de ballon, forcément, malgré le fait qu'ils ont une bonne défense, les Irlandais, c'est pas n'importe qui. Donc, les Irlandais, ils ont bien joué leur jeu. Et comme a dit Fabien Galthié, ils ne veulent pas reproduire le jeu des Irlandais, hein, parce que chacun a son,
évidemment.
A son type de jeu. Mais l'Irlande a joué d'une certaine manière et tout, en privant le ballon aux Néo-Zélandais, c'était magnifique.
Et surtout, c'est sans doute une mauvaise nouvelle pour les Bleus, cette défaite des Blacks, parce qu'on n'imagine pas vraiment les Blacks, hein, Jérémy, perdre deux fois de suite.
Ah, exactement.
Il ne s'est jamais arrivé, je crois.
Dans ce cas-là, c'est très rarement. Donc ça va être les bacs qui vont vouloir se reprendre. La France, ça va être un gros test pour eux, révélateur.
Et même si la France se sont donné confiance en battant la Géorgie sur un très gros score.
Exactement.
Est-ce que c'était un bon sparring partner, la Géorgie, avant d'affronter les Blacks?
Oui,
je pense que parce que là, c'est costaud. Hein.
C'est costaud, la Géorgie, c'est des gros gars.
Des bourrins, ouais.
Les Mielos, comme on les appelle.
Ils font le tournoi destination B, eux. Ils sont souvent
la meilleure équipe de destination B. D'ailleurs, ils postulent
recul depuis quelques années à prendre la place de l'Italie. Après, moi, je trouve que c'était une très bonne idée. D'ailleurs, les Lelos, on en parlera après, mais ils ont bien embêté les Français.
On peut en parler tout de suite même. Hein. Donc, la France bat la Géorgie. Qu'est-ce qu'on retient de ce test match ?
Moi, je retiens. Moi, j'ai envie de retenir la très bonne entrée de Peato Movaca, le talonneur toulousain qui a remplacé Julien Marchand, qui s'est blessé juste avant la mi-temps. Il marque deux essais. Il est très percutant. Je trouve que il est assez jeune. Hein. Il a que 23-24 ans. Donc, c'est vraiment un vrai talent pour l'avenir pour la France. Et il marque d'ailleurs son troisième essai.
Le doublé de Penaud aussi.
Et doublé de Damien Penaud qui allait le fait toujours
très puissant, hein, le trois quarts, hein, le trois quarts centre, le trois quarts de l'équipe de France. Hein.
Exactement. Donc on a aussi l'association Jalibert Ntamack avec Dupont. Donc Ntamack est plus en trois quarts centre. Ça a plutôt bien marché. Je trouve que ça a mieux combiné. Jalibert qui notamment marque un essai, Ntamack qui pareil, je trouve a réussi à faire produire du jeu, à mieux utiliser le ballon que lors du dernier match c'est face à l'Argentine. Donc c'est vraiment un match intéressant, mais qui vraiment ce qui va être important, c'est le match face aux Blacks qui va vraiment révéler le réel niveau aussi de l'équipe de France. Avec, ça, c'est une grosse équipe.
Et une nouvelle pour l'équipe de France qui ne jouera pas sur leur talonneur Julien Marchand qui est forfait pour la Nouvelle-Zélande.
Exactement, Julien Marchand qui du coup s'est blessé contre la Géorgie aux côtes ne sera pas là. Je pense que du coup, ça sera Peato Movaca qui le remplacera. Et c'est plutôt pas forcément un mauvais choix, vu les performances qu'il fait.
Alors, les autres résultats, deux chutes pour l'Australie, hein, après sa défaite en Écosse.
Exactement.
16-13, défait à Twickenham, 32-15, avec 17 points d'Owen Farrell.
Exactement, l'Angleterre qui montre qu'ils sont encore une très bonne nation. L'Australie qui du coup a plus de mal hein, ces derniers temps à réaliser.
Ouais, malgré les 15 points d'un certain James O'Connor, un ancien Toulonnais.
Exactement, mais malheureusement ça ne suffit pas hein, pour marquer, celui souvent qui marque le plus d'essais. Les Anglais sont très bons là-dedans. Farrell, c'est un des meilleurs demi de mêlée au monde, donc forcément ça.
Et ça sera le prochain match pour les Anglais, ça sera justement l'Afrique du Sud hein, qui s'est imposée donc en Écosse avec le doublé de Mapimpi pour un remake de la finale de la Coupe du Monde.
Exactement, les Box qui affrontent.
Et autrement, il y avait l'équipe de Galles qui a explosé les Fidji 38-23.
C'est pas étonnant.
Mais qui ont souffert.
Et puis l'Afrique du Sud qui a gagné en Écosse 30-15.
Et les tests match féminins, c'est la victoire de l'équipe de France qui bat la Nouvelle-Zélande 38-13. Alors,
magnifique victoire.
Magnifique. La Nouvelle-Zélande, on sait que chez les femmes, c'est un peu moins, c'est pas le même niveau que chez les hommes. Mais ça reste une deuxième très bonne victoire pour les Françaises après leur dernier match.
Et qui joueront encore la Nouvelle-Zélande. Enfin, la Nouvelle-Zélande qui a perdu déjà deux fois contre l'Angleterre. Un dernier petit mot de rugby avec Fabrice, puisque j'ai oublié de donner le score du Stade Nantais contre Domont.
Les éléphants ont brillé chez eux.
Money Time, votre émission sportive. Ah,
pardon.
Excusez-moi, c'est pas grave. Donc je disais que les éléphants avaient brillé chez eux avec un score hors norme, 128-0. Il y avait 52-0 à la mi-temps. 20 essais.
C'est beaucoup.
C'est énorme. Donc avec 3 essais de Malabeuf, Fabien Malabeuf, 4 de Toulanger. Et il y a eu 12 marqueurs. Ce qui est quand même
relativement... Ça montre aussi le collectif.
Une belle symbiose.
Le seul petit bémol, voilà, c'est la sortie de Morgane Leboris, blessé à la cheville. Ah, il sera absent quelques jours, quelques semaines même.
Allez, on part sur les sports d'hiver et pré-saison. On est à Sunshine.
En Norvège.
En Norvège.
Exactement, c'était la pré-saison pour l'équipe de France. C'est un petit peu souvent les sélections là-bas en Norvège. Hein. Il y avait beaucoup de Norvégiens et Norvégiennes.
Parce que du coup, il y avait des Norvégiens,
des Norvégiens,
des Belges, des Français. Mais tout le monde n'était pas là.
Hein. Non, tout le monde n'était pas là. Les Suédois n'étaient pas là et tout. Donc, il y a eu le sprint homme, sprint femme et master femme. Chez le sprint dame, c'est la Française Julia Simon qui remporte ce sprint devant Marthe Reuseland et Thierry Lecoff. Les Chevaliers fait une très belle quatrième place. Du côté des hommes, c'est Bakken, le jeune Norvégien de 24 ans, donc, qui s'importe devant Bogdvejt et Tarjebø quand Fionmaillet finit sixième. Et côté Mastart, c'est la victoire chez les femmes de Ingrid Tendrevold devant Chloé Chevalier qui fait encore du coup une belle deuxième place, des belles pré-saisons
à Sochaux. Il faudra suivre. Hein. Ça ouvre le 26 novembre la saison.
Exactement.
Et des Françaises qui derrière sont quand même 4, 5, 6, 7, je crois.
4, 5, 6, 7 avec dans l'ordre Brézaz, Anaïs Chevalier-Boucher, Anaïs Bescon et Julia Simon. Du voilà. côté des hommes, on a Tarié Beu qui s'impose devant Fion Maillet et Emilien Jacquelin. Donc c'est vraiment une très belle, très bonne pré-saison qui annonce de belles choses à venir pour l'équipe de France.
Östersund, rendez-vous le week-end du 26 novembre. Et là, on distribuera les récompenses. Médaille. Les bouquets de fleurs et tout ce qu'on veut. On attend ça avec impatience. D'autres infos où on a terminé ?
On a le golf. On avait le
Houston Open.
Exactement, avec la victoire de Kokrak qui s'impose devant Scheffler.
Donc, avec Paul Barjon qui passe pas le cut cette semaine, malheureusement.
Et Hansen, vainqueur à Dubaï, et Rosner, le
sur
français.
Sur le circuit européen.
Rosner Antoine qui Rosner qui finit quatrième. Ouais.
Quatrième place.
Il n'était pas premier
Il était
au
premier,
départ,
mais premier il a fait deux drives un peu à ma façon, ou passe derrière le green. Mathieu sait le faire, mais il sait revenir très très vite sur le green et nous faisait un petit pitch fabuleux pour faire un beau birdie.
Et du hors-piste.
Allez, ça sera le mot de la fin. Il est 20h, on rend l'antenne. C'est Passage en Force sur les ondes de Prune. À la semaine prochaine.